Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
In My Shoes.
Dans un contexte global de méconnaissance religieuse et d'émergence de nouvelles pratiques, le politique et le monde de l'entreprise se retrouvent souvent sous tension et les religions apparaissent tour à tour comme source de conflits ou de questionnements sur l'homme et son devenir. Les managers en entreprise se retrouvent souvent désarmés face à des problématiques dont le traitement nécessite une bonne connaissance légale, laïque et religieuse. C'est pourquoi notre épisode aujourd'hui s'intitule « Faire religieux en entreprise, les clés du dialogue ». Et c'est Xavier Guézou, délégué général de l'IHEMR, l'Institut des hautes études du monde religieux, à confessionnel, à politique et d'intérêt général, qui nous accompagne dans cette réflexion.
Tout le monde, à un moment ou à un autre, est percolé par ces questions-là, puisque ça touche nos valeurs et nos identités profondes, même si quand on vient en entreprise, il y a une partie de son identité qu'on laisse de côté.
Après une carrière comme consultant et cadre à l'international dans les technologies de l'information, Xavier Guézou a choisi de compléter sa formation d'ingénieur par un parcours de plusieurs années en sciences humaines et sociales, sociologie, histoire et géopolitique. Convaincu que les valeurs humanistes et les démocraties sont profondément fragilisées et que le fait religieux, facteur d'unité ou de fracture sociale, doit être abordé, il contribue à la création en 2013, en lien avec l'État, les représentants des cultes, les universitaires, il contribue donc à la création de l'Institut des hautes études du monde religieux. Il en est le directeur général. Xavier, bonjour.
Bonjour.
Le faire religieux en entreprise, c'est un phénomène qui est de plus en plus connu, de plus en plus traité. Pourquoi c'est important et voire même intéressant d'en parler ?
Alors, c'est important d'en parler parce que si on le fait pas, ça peut poser des problèmes dans l'entreprise et ça peut poser des problèmes aux personnes. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que depuis 10 ans, on se rend compte qu'il y a une intensification du phénomène qui se produit et en particulier des cas qui posent problème. C'est certainement pas le temps de mettre ça sous le tapis parce que, comme tout ce qu'on met tout sous le tapis, à un moment, voilà, ça peut exploser. Et c'est intéressant parce que c'est un gisement de dynamique collective pour l'entreprise, à la fois d'anticiper ou de réguler les choses qui ne vont pas, mais aussi à la fois de mettre tout le monde confortable là-dessus et de se rendre compte que c'est un élément comme un autre dans la vie de l'entreprise, que ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, voilà, il y a différentes façons de croire. Très bien, eh ben, on vit ensemble avec ça, on peut en parler, il n'y a pas de tabou sur le sujet. Voilà. Il y a des limites, bien sûr, hein, prosélytisme et autres, mais c'est un sujet parmi d'autres. Ça a besoin d'être traité comme un sujet parmi d'autres.
C'est la laïcité qui fait beaucoup de débats en ce moment. Pour bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, j'ai l'impression, quels sont les grands principes établis pour l'espace public, l'espace privé et les entreprises en France ?
Oui, c'est important de revenir aux fondamentaux. La laïcité... Il faut vraiment en parler beaucoup parce que ce sont des principes qui structurent énormément de choses dans la vie de ce pays. Les deux grands principes de la laïcité, c'est un principe de liberté. Ça vise à un objectif de liberté des personnes et des groupes de personnes d'ailleurs. C'est-à-dire que chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer ce qu'il croit. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième principe, c'est un principe d'égalité. Il n'y a pas de groupes croyants qui sont, ou non croyants, hein, qui seraient supérieurs à un autre vis-à-vis de l'État, de la loi, etc. Pour organiser tout ça, en France, on a une particularité qui est que l'État est neutre. Il ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ni aucune croyance, mais en même temps, il est garant de la liberté. Ces principes de base de liberté, de neutralité, eh ben, c'est le départ de la laïcité. Donc, dans la sphère privée, chacun fait ce qu'il veut. Dans la sphère ensuite publique, à partir du moment où vous ne troublez pas l'ordre public, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez en tant qu'usager. Ça, c'est extrêmement important à intégrer. La troisième dimension, c'est la dimension travail, collectif de travail. Dans l'entreprise, le principe de liberté est également à la base, mais il est contingenté à un certain nombre de contraintes d'hygiène, de sécurité et de bon fonctionnement de l'entreprise, bien sûr. Également tout ce qui est non-harcèlement, non-discrimination et autres. Et donc, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions qui permettent aux entreprises de limiter les expressions convictionnelles, qu'elles soient religieuses ou autres d'ailleurs, par exemple dans les fonctions commerciales. Mais il faut que ce soit neutre, c'est-à-dire que ça adresse l'ensemble des expressions convictionnelles. Vous ne pouvez pas interdire un signe religieux, par exemple, et uniquement. Il faut interdire dans les fonctions commerciales l'ensemble des signes convictionnels. Et également, il faut que vous permettiez aux personnes qui travaillent et à qui vous réduisez cette expression religieuse, si elles le souhaitent, de changer de poste. Si elles veulent continuer à porter un signe qui est important pour elles.
Est-ce qu'on peut citer un ou deux exemples, par exemple, pour les fonctions commerciales ?
Les fonctions commerciales, effectivement, ça va être... le plus classique, c'est le voile, mais ça peut être une croix qui devient quasiment une croix pectorale, vous voyez, qui est plus un signe religieux, qui devient un signe religieux ostensible, ostentatoire. Ça peut être des signes politiques, d'adhésion politique à un mouvement ou à une idéologie ou à une pensée. C'est tout cela qui est concerné. Ouais, ouais. De sorte que la relation de l'entreprise avec son client ne soit pas perturbée en fait, par les convictions qu'affiche la personne qui représente l'entreprise à ce moment-là.
Qu'est-ce qui fait la spécificité peut-être de la France par rapport à l'international ? Est-ce que les pays anglo-saxons sont très différents dans la façon d'aborder le sujet, de faire religion à l'entreprise ?
Oui et non. Je vais faire un peu une réponse ambiguë. Mais faut bien, on a tendance à se mettre à part, à croire que la laïcité, c'est quelque chose qui nous met tout à fait à part des autres pays. Ce n'est pas vrai. Tous les pays occidentaux, les grands principes de la laïcité qu'on a en France sont les mêmes partout, c'est-à-dire la liberté religieuse. Et une certaine indépendance entre l'État et les cultes. Et la liberté de changer, etc. C'est la même chose partout. Après, la façon dont on l'organise est différente. Il y a une spécificité française importante qui est la neutralité de l'État et de ses agents. Ça, c'est vrai, c'est une spécificité importante. En France, par ailleurs, on a intégré une culture de relative discrétion par rapport à l'expression convictionnelle. On n'est pas forcément, jusqu'il n'y a pas très longtemps, on n'était pas forcément très à l'aise quand les gens venaient parler religion comme ça, en particulier au travail. On avait intégré quelque chose de, une relative discrétion, considérant que ça se vit plutôt dans la sphère privée. C'est pas la loi, c'était une culture qui était comme ça. Pourquoi ? Parce que probablement il y a eu un certain nombre de conflits assez tardifs, jusqu'au 19e, lorsque la laïcité s'est mise en place, de séparation de l'Église et de l'État, que ça ne s'est pas forcément hyper bien passé, et que donc, à un moment, il y a eu un modus vivendi qui s'est trouvé comme ça. La séparation s'est faite, finalement tout le monde s'en trouve très bien. Et puis, on ne va pas parler religion parce que c'est pas le sujet, etc. Dans les pays anglo-saxons, c'est assez différent. Effectivement, il n'y a pas du tout a priori sur les expressions convictionnelles. Ça ne pose pas de difficultés. C'est une façon de voir assez différente. Et donc, il y a une spécificité française à cet égard.
Ouais. Vous dites qu'il y a eu une évolution. Est-ce qu'on peut citer des chiffres ? Est-ce qu'il y a des... Alors, en France ou à l'étranger, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont frappantes ?
Alors, on connaît surtout... on travaille surtout sur le sujet en France, pour le monde du travail. Et la France a aussi un certain nombre de spécificités par rapport à l'international. Donc, pour ce qui concerne la France, il y a un travail qui est fait remarquable par l'Observatoire du fait religieux en entreprise depuis 10 ans, par M. Lionel Honoré, en lien avec l'Institut Montaigne. Et donc, par exemple, en 2013, il y a 10 ans, il y avait 6% des situation de faits religieux qui posaient difficulté ou qui généraient un conflit. Aujourd'hui, c'est 22%. Donc, vous voyez, c'est une croissance en 10 ans importante. Alors, on n'observe pas globalement plus d'expressions de faits religieux. Par contre, on observe dans certains cas une plus grande difficulté avec ces expressions religieuses.
Quels sont les chiffres importants qu'on peut donner qui sont clés sur ces sujets ?
Alors, pour l'entreprise, retenir que 2 managers sur 3 sont confrontés aux faits religieux, observent des faits religieux. Voilà. Sur l'ensemble de ces faits religieux, il y en a 20% qui vont poser problème en allant jusqu'au conflit. Ça ne veut pas dire que ça va être complètement problématique, mais quand même, ça va jusqu'au conflit. Voilà, ça, c'est des chiffres importants. 13% des cas de faits religieux, c'est lié à la relation aux femmes. Et alors, pour bien finir sur les chiffres, retenir que la plupart des demandes liées, des faits religieux, des demandes liées aux faits religieux, c'est-à-dire plus de 50%, 60%, c'est de l'aménagement du temps de travail, ça pose pas de problème, c'est l'observation de signes religieux, ça pose pas de problème non plus, voilà.
J'allais dire philosophiquement parlant, en poussant un peu le trait, Les entreprises sont très axées sur le bien-être des collaborateurs, etc., depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que ce côté mieux-être, vivre ensemble, est-ce que ça fait partie aussi de ce qui est à traiter dans... Et c'est la raison pour laquelle on adresse le sujet des faits religieux ?
Oui, en effet, ça fait partie... L'entreprise peut facilement arranger les choses pour des collaborateurs qui ont des convictions religieuses, qui, par exemple, font une demande de congé pour une fête ou voilà, un événement en lien avec leur religion. Si ça ne gêne pas le travail des équipes et le planning, il n'y a aucune raison de refuser. Enfin, d'ailleurs, elle n'a pas rentré dans le détail du pourquoi la demande se fait. Et donc, il y a... bien sûr, il y a moyen de tenir compte de cette dimension-là de manière assez simple, au même titre que on le fait pour d'autres demandes. Rien n'empêche non plus, lorsqu'il y a des fêtes confessionnelles, certains salariés vont partager des gâteaux, des choses avec des collègues. Bon, ben voilà, ça fait partie de la découverte de l'autre, des richesses que chacun amène, de sa culture. Au même titre, quand vous avez un collègue indonésien, bah vous aimez bien aussi découvrir sa nourriture, etc. Enfin voilà, ça fait partie des choses qui du mieux-être effectivement qu'il est bon d'intégrer dans la vie de l'entreprise. Je pense aussi à tout ce qui est yoga. C'est relativement souvent pratiqué ou proposé dans le cadre de l'entreprise parce que ça a un certain nombre de vertus. Bah, le yoga, à l'origine, en tout cas, c'est lié à une pratique religieuse. Bon, voilà, on n'en fait pas un fromage, c'est complètement laïcisé, si je puis dire, sécularisé. Ouais. Et très bien, ça, c'est bien pour tout le monde, voilà. Mais ça vient quand même d'une pensée sur l'homme et sur l'univers liée à une religion, hein, une représentation de soi, le monde, etc., et qui a un certain nombre d'intuitions, quoi.
J'aimerais bien que vous citiez quelques exemples d'expressions religieuses qui posent problème en entreprise.
En premier lieu, vient tout ce qui est relation aux femmes, avec des gens qui refusent de serrer la main, qui refusent de travailler avec une femme manager, qui discriminent, donc qui vont refuser de parler, voilà. Et donc ça, c'est un phénomène assez important. C'est observé par 30% quand même, hein, des personnes dans l'entreprise en général. Donc c'est pas rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très ennuyeux, c'est la discrimination parce qu'on sait qu'une personne a une religion. C'est quelque chose qui est en train de monter aussi et qui est très problématique. Ou quelqu'un qui va, au fil d'une conversation, expliquer qu'elle est, j'en sais rien, pentecôtiste, catho, musulmane, etc. Suite à cela, le comportement des collègues change. Pareil, ostracisation, voire vexation. On a eu des cas dans une entreprise, par exemple, où on savait que la personne était musulmane. On lui versait du vin au moment du repas, on lui versait du vin à côté de lui, vous voyez, pour voir comment il réagissait. Enfin, des choses très sympas comme ça, quoi. Donc, ces faits-là, il faut vraiment les traiter. Il faut que les managers soient équipés pour pouvoir les traiter, les signaler, et qu'il y ait des sanctions derrière, parce que c'est pas acceptable. Ce que l'entreprise ne doit surtout pas faire, c'est laisser faire, en fait. Voilà. Elle doit prendre en compte tout ça. Il faut que ça remonte, il faut qu'il y ait une politique claire, qu'elle soit expliquée à tout le monde dès le moment de l'embauche des personnes. Il faut que les règles soient claires, dites, bien connues. Et donc, que les managers, ils aient leur petit guide pour derrière savoir ce qu'il faut faire quand ce genre de situation se présente.
Il y a aussi tout ce qui concerne la sécurité, la sûreté, l'hygiène de l'entreprise. Il y a des faits religieux qui sont liés à ça. Qui pose problème.
Alors, tout ce qui est hygiène, oui, vous allez avoir par exemple les barbes. Bon, voilà, c'est assez clair, à partir du moment où vous êtes cuisinier chez un fournisseur d'entreprise, par exemple, vous ne pouvez pas arriver avec une grande barbe qui peut potentiellement traîner dans les aliments, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, voilà. Ça, c'est le point hygiène. Tout ce qui est. Sûreté, alors là, c'est les vêtements plus. Par exemple, vous êtes sur une chaîne de montage et vous avez un vêtement un vêtement très ample ou un voile qui dépasse, qui se prend dans les rouages, c'est très dangereux. Donc voilà, il faut une tenue adaptée au travail qui ne met pas en danger la personne. Et puis la sécurité, là on est sur un autre registre, on est sur on bascule dans le côté obscur, si je puis dire, du fait religieux, hein, avec des gens qui veulent vraiment nuire à la santé, enfin à la sécurité de l'entreprise et des personnes, des biens et des personnes. Alors, heureusement que c'est beaucoup plus rare, heureusement que ça concerne plutôt un certain nombre d'entreprises stratégiques, on va dire, mais bien sûr, il faut une politique très vigilante là-dessus.
Et puis, il y a le prosélytisme aussi. Il y a des gens qui vont essayer de convaincre.
Prosélytisme interdit en entreprise. Voilà. Il y a la liberté religieuse, liberté convictionnelle. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, vous me posez des questions sur ce que je crois, etc. Bah, c'est tout à fait... On peut discuter tranquillement. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou j'ai envie de vous en parler, voilà, vous pouvez répondre ou pas. Par contre, le prosélytisme, qui consiste à vouloir fortement convertir l'autre, enfin convaincre l'autre de ce qu'on croit soi, ça c'est interdit. C'est une des limites importantes. C'est autorisé dans la rue, c'est pour ça que vous voyez des gens qui essayent de vous alpaguer, qui vous haranguent, etc. Très bien, c'est permis. Dans l'entreprise, non, c'est une des limites. Oui.
Vous disiez tout à l'heure, c'est tous ces faits religieux qui posent problème sont vraiment à traiter par les entreprises. Il ne faut pas laisser passer. Quels sont les risques, j'allais dire, si les entreprises ne gèrent pas ces sujets-là?
Je pense que ils sont multiples. Hein. Ça peut être la qualité de vie au travail, la santé des gens. C'est l'organisation du travail, parce que tout d'un coup, vous avez des gens qui refusent de travailler avec un tel ou machin. C'est la charge mentale du manager, parce que ça l'impacte. C'est l'image de l'entreprise à partir du moment où vous avez une affaire, un CAC par exemple, qui est maltraité. L'entreprise a mal compris la loi et ce qu'elle peut faire, pas faire. Elle se retrouve au prud'homme, ça fait tout un cirque, parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça aussi. Ça peut être, on évoquait hein, la sécurité de l'entreprise. Ça peut impacter de manière sérieuse beaucoup de choses. Allant donc de la vie des gens, des salariés, au collectif, à l'image de l'entreprise, à la relation commerciale d'entreprise, etc.
Et alors, j'allais dire, à contrario, est-ce que ça provoque quelquefois un type de discrimination, par exemple des discriminations à l'embauche des musulmans, qui est souvent une religion qui a été citée parce qu'il y avait des problématiques? Est-ce que justement, ça aussi, il faut se méfier de ne pas se laisser entraîner de l'autre côté du spectre, j'allais dire?
Un des grands points de discrimination en lien avec la religion qui se joue actuellement, c'est la discrimination à l'embauche, et en particulier vis-à-vis des personnes de confession musulmane. C'est un vrai problème. Donc, les entreprises soient vigilantes là-dessus. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une entreprise de transport qui disait nous, dans notre règlement, par exemple, on ne permet pas aux femmes d'être voilées. Mais par contre, les candidates qui sont voilées, on les reçoit toutes. Et on leur explique, par contre, que si elles acceptent de travailler avec nous, il faudra qu'elles enlèvent leur voile. C'est la bonne façon de faire. Voilà, indépendamment du fait que du règlement intérieur de l'entreprise. Voilà, donc il faut effectivement faire très attention là-dessus. Donc il y a effectivement un point de vigilance sur ce point-là, sur cet élément-là. La discrimination à l'embauche, c'est une réalité. Ouais. Ouais.
Si on doit citer des bonnes pratiques, j'allais dire, à appliquer et comment progresser, est-ce qu'on peut citer des choses qui peuvent aider, j'allais dire, les entreprises ou les managers à avancer dans le bon sens?
Les bonnes pratiques, je pense que la première, c'est de vraiment prendre en compte le sujet, de traiter, donc d'en parler entre managers, avec les ressources humaines, entre salariés, voilà, de voir quelle est la réalité de ce qui se joue dans le collectif. C'est de mettre en place un règlement intérieur, parce que ça clarifie les choses. Et ça permet en plus de repenser par rapport à ces questions-là, c'est quoi notre entreprise? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aime bien faire? La diversité pour nous, c'est quoi? Comment on la vit? Cet élément, il est un peu sensible. Voilà, ça mérite qu'on prenne un peu de temps. Donc, ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Et ça permet d'éviter effectivement un certain nombre de problématiques qui peuvent se jouer dès l'embauche. Ça peut être ensuite. Alors les formations sont aussi importantes parce que tout simplement ça permet de faire comprendre quel est la politique de l'entreprise, les règles, pourquoi on a mis en place un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est là pour brider la liberté des salariés ou juste mettre un certain nombre de limites qui fait que le collectif marche mieux et que, bon, bah, et sur certaines choses, voilà, on ne peut pas tout faire dans l'entreprise, ce n'est pas le lieu. Ça ne veut pas dire que tout est interdit non plus, ce qui serait l'excès. Voilà. C'est important que les gens qui... pour qui ce sujet-là est central, eh ben ils soient à l'aise aussi. Et si demain, ils veulent demander, enfin, ils veulent prier pendant leur temps de pause, eh ben ils sachent que oui, c'est possible, ça gêne personne, c'est tout à fait leur droit, etc. Donc, c'est important de parler du sujet, en fait, parce qu'il y a tellement de non-dits, tellement de représentations, de préjugés, bien sûr, que du coup, on arrive dans des apories, quoi, des moments où c'est la crise. Et effectivement, c'est là qu'on a les problématiques de discrimination, de rejet, de stigmatisation, ou alors les actes d'agressivité, parce que tout d'un coup, il y en a un qui affirme très fortement son truc et qui joue plus du tout, qui intègre plus du tout le collectif, quoi.
Vous avez dit aussi qu'il ne faut pas laisser les managers tout seuls face à ça.
Absolument, ouais. On a eu pas mal de cas, alors ça a tendance à se réduire, hein, mais on a eu pas mal de cas où lorsqu'on discutait avec les ressources humaines, ils disaient, bah, nous, il n'y a pas de sujet là-dessus, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand on allait sur le terrain, c'est notamment l'étude offre là, hein, qui s'est rendu compte de ça, et bien quand on allait sur le terrain, les managers ne disaient pas ça. Si, on a des problèmes, on sait pas quoi faire, je suis bien, bien embêté, on fait comme on peut, etc. La personne qui va gérer les demandes les plus importantes qui se produisent, qui va gérer 99% des cas, c'est le manager de proximité. Donc lui, il faut qu'il ait un cadre sur lequel il puisse s'appuyer. Qu'il sache justement qu'un certain nombre de demandes, on ne rentre jamais sur le débat du religieux par religieux, on regarde le travail, le fonctionnement de l'équipe, ça passe pas, point. Enfin voilà, il y a un certain nombre de principes comme ça qu'il faut lui transmettre. Et également, si ça passe pas et que ça suffit pas et qu'il y a des faits qui se produisent, il faut qu'il puisse s'appuyer sur les ressources humaines ou une structure en tout cas qui vient l'aider en complément. Ça peut être aussi les ressources humaines qui mettent en place quelque chose pour les problématiques qui dépassent le fait religieux, bien sûr, hein, de harcèlement, d'égalité, choses comme ça. Donc voilà, c'est extrêmement important, effectivement, que les managers soient à la fois aidés, accompagnés, guidés et supportés, quoi.
C'est quoi les bénéfices de s'intéresser, j'allais dire, ou de se former au monde religieux ?
Tout ce qui est religion pense l'homme. Et le monde. Et donc, il y a forcément une réflexion philosophique et éthique, en quelque sorte, qui est contenue dans ces matières-là. Donc, quand on essaye de travailler pour le bien commun, de voir comment on pourrait bien agir, etc., c'est intéressant d'intégrer ces réflexions-là, ces champs de réflexion-là. Ça ne veut pas dire qu'on les approuve à 100%, mais il y a moyen de s'en nourrir, en tout cas, et d'en hériter, quoi. Je crois que c'est bien dans le monde dans lequel on vit, on est tous issus d'une histoire très riche. C'est pas mal de ne pas repartir à zéro complètement pour reconstruire du neuf. Ça peut être bien de regarder d'où on vient, qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer du passé pour mieux construire l'avenir demain, quoi. Et se former, justement, ça permet ça. Justement. Ça permet on reste libre en se formant, hein, mais ça permet quand même d'hériter d'un certain nombre de choses, de mieux comprendre les problématiques, de mieux comprendre l'autre, donc d'être mieux en relation. Et ça, c'est quand même, quand on veut construire une société plus fraternelle, plus juste, plus humaine, bah c'est hyper important, quoi. Que d'être dans l'entre-soi et l'homéostasie, quoi.
L'homéostasie, alors ça, il va falloir que vous m'expliquiez, c'est quoi ?
L'homéostasie, c'est qu'à un moment, je vais recruter dans mon entreprise des gens qui sont comme moi. Parce que c'est mon réseau, c'est facile, je sais comment il marche. J'ai recruté des gens qui sont comme moi, des gens qui viennent de mon milieu, qui ont à peu près ma formation. Je sais qui ils sont, je sais comment ils fonctionnent, etc. Je sais que ça a marché. C'est top. Simplement, à un moment, vous êtes un peu dans un prisme, vous êtes un peu dans une bulle. Un peu comme une bulle cognitive de réseau social, vous voyez. Vous êtes avec des mômes. Voilà. Et donc, vous pouvez passer à côté de choses cruciales. Un milieu de travail, plus il est riche, plus il y a de chances qu'il soit innovant, dynamique, riche, généreux, etc.
Moi, j'ai une dernière question, qui est une question secrète que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Xavier Guézou ?
De ne pas avoir peur de parler de ces sujets-là, quoi. Voilà, de rentrer dans ces sujets-là. Je pense qu'un minimum de culture sur la laïcité et le fait religieux, je pense que ça, voilà, ça donne du confort à tout le monde. Donc je souhaite partager ça le plus possible.
Vous venez d'écouter Xavier Guézou dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.